me regarde pas, me passe au travers, me voit pas, m'ignore, me laisse là. Me frôle, des fois me bouscule, s'excuse jamais. Me regarde pourtant, mais me voit pas.
Et nous venons d'écouter un extrait de Maelstrom, une création théâtrale qui sera jouée sur la scène du Théâtre du Briançonnais le 25 avril, vendredi 25 avril à 20h dans la grande salle, et le 24 pour le jeune public. Maelstrom, une pièce de Fabrique Melchiot mise en scène par Marie Vauzel, qui explore avec poésie l'adolescence contemporaine et la place de la différence dans notre société. Une création de 2021 avec au plateau trois interprètes, un musicien, une comédienne et son double, interprète en langue des signes. La metteuse en scène, donc Marie Vauzel, est avec nous au téléphone. Bonjour Marie.
Bonjour.
Est-ce que tu nous entends bien ?
Je vous entends très bien, je suis dans le Mistral, donc pour vous capter, c'est très bien.
Super, et bien nous on n'entend pas le Mistral, donc je pense
tant
que
mieux.
Tout va bien. Donc tu es à Marseille, c'est ça ?
Là, je suis à Marseille. Moi, je vis à Arles, en fait, mais là, en ce moment, oui, je suis à Marseille.
Ah,
je donne un stage avec des élèves.
Parce que voilà. Ta compagnie est bien à Marseille, c'est ça ?
Non, elle est à Arles.
Ah, bah
mais
non.
Bon, voilà.
Eh bien, replaçons tout ça. C'est une erreur de ma part à Arles.
C'est,
donc.
Pas, très, c'est pas une grosse erreur.
Ouais. Donc, tu es auteur, metteur en scène, comédienne. Tu as fondé la compagnie MAB, qui produit ce spectacle, c'est bien ça ?
Oui, voilà, j'ai créé en 2014, après avoir fait une école supérieure à Montpellier et créé un collectif là-bas. J'ai eu besoin aussi d'un espace plus intime pour mes créations. Et puis, comme je faisais un gros travail de territoire aussi à Arles et à Marseille, c'était cohérent pour moi de créer cette compagnie.
Et est-ce que tu peux nous dire un mot de plus pour te présenter, pour que nos auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu mieux ?
Donc je suis arlésienne, j'ai fait des études de philo un peu avant de faire cette école d'art dramatique de Montpellier, ce qui pour moi est une continuité, puisque pour moi le théâtre c'est partager ensemble et avec les émotions et la chair de la pensée, penser ensemble. Ensuite, donc à la sortie de l'école, j'ai créé un collectif, le collectif Mobius, et dès le début on s'est emparé de thèmes actuel, alors ce mot ne veut un peu rien dire, mais de thèmes qui nous brûlaient, en tout cas dans notre expérience du monde, et on travaillait à en écrire notre propre fable, à écrire notre propre histoire, à un endroit théâtral qui soit non pas documentaire, mais une transposition onirique, poétique, pour élargir à des problèmes plus universels et en même temps penser notre présent. Et voilà, et c'est un travail que j'ai fait mien. J'ai commencé à écrire avec le collectif. J'ai aussi commencé à mettre en scène. Et puis, j'ai trouvé que c'était une place qui me semblait être la mienne. Enfin, voilà, et donc j'ai continué. J'ai beaucoup mis en scène. Je fais toujours aussi beaucoup de travail de territoire dans des lycées, des collèges, des hôpitaux, des maisons de retraite, parce que ça me semble faire partie de mon travail en tant que théâtre public, que service public, et puis très enrichissant pour mes pratiques artistiques. Et puis de plus en plus aussi l'écriture, qui est une autre zone de liberté et de plongée dans l'intime. Donc j'écris aussi des textes que je ne monte pas forcément.
D'accord, voilà. Mais tu en as monté certains.
Exactement. Oui, en général, alors mis à part Maelstrom, dont on va parler ensuite,
oui,
c'est toujours des textes que j'ai écrits que j'ai monté, oui.
D'accord, très bien. Eh bien, merci pour cette présentation. Et effectivement, on va parler de Maelstrom, que tu n'as donc pas écrit. Maelstrom, c'est un courant marin qui forme un tourbillon, déjà, pour expliquer ce que ça veut dire. Mais c'est aussi un texte écrit par Fabrice Melchiot. Comment l'as-tu découvert, ce texte ?
Alors, j'avais eu une commande du théâtre du gymnase Bernardine à Marseille de monter un texte jeune public d'un auteur reconnu. J'ai beaucoup lu, et c'était associé avec le théâtre Massalia, qui possède en plus une bibliothèque jeune public, ce qui est un bien précieux. Donc, j'ai beaucoup lu de textes, et je cherchais un texte qui ne soit pas didactique. C'était important pour moi. J'aime un théâtre qui nous laisse face à de l'être, qui nous laisse de l'espace, qui laisse au spectateur l'espace de se faire sa propre histoire. Et donc, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce texte de Fabrice Melchiot, qui est vraiment le cri d'une adolescente au sens très large. La circonstance est que c'est une jeune femme qui est née sourde, donc ça traite de cette question-là en particulier, mais ça me semblait être le cri de colère et d'amour et d'envie de vivre qu'on vit tous à l'adolescence, ce moment de mue où on nous définit, où on est un peu assigné à des identités et où ça nous étouffe un peu et on est à l'étroit là-dedans. Ça m'a plu parce que je voyais l'espace et pour le spectateur et pour moi en tant que metteur en scène et pour les comédiens et comédiennes d'y créer leurs espaces à eux.
Voilà. Et quand tu dis un texte jeune public, là ça t'a parlé à toi, finalement c'est pas seulement jeune public, ça parle à tout le monde.
Non, exactement. D'ailleurs, depuis le début, on a un public très mélangé et ça parle à tout le monde parce qu'en fait cette fabrique des identités fixes, elle fonctionne à plein régime aujourd'hui où on assigne des identités et des mots à chacun et on y est tous un peu à l'étroit. Donc Cette chose qui se passe peut-être particulièrement à l'adolescence où on a du mal à s'identifier, eh ben évidemment qu'elle est universelle. Et puis il y a au-delà de ça la question plus politique pour moi de la reconnaissance des sourds, de la reconnaissance de la langue des signes française et de leur laisser un espace avec nous dans nos vies, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc il y avait aussi l'occasion de parler plus largement ce combat politique dans lequel ils sont.
Donc beaucoup de thématiques et puis de messages, entre guillemets. Il n'y a peut-être pas une morale à retenir, mais en tout cas, il y a plusieurs quand même thématiques qui sont abordées, comme tu le disais. Donc le synopsis, entre guillemets, c'est l'histoire de cette Vera qui a 14 ans. On traverse son histoire à quel moment sur scène ?
Alors c'est vraiment, on la découvre au moment où elle s'est échappée du collège. Vera a 14 ans, elle est appareillée, ce qui est une histoire particulière aussi. Il y a plusieurs façons de vivre pour les sourds. Il y en a qui ne sont pas appareillés, qui signent. Elle a été appareillée à l'âge de 2 ans et elle est dans un collège avec des parlants, donc elle est des entendants. Donc c'est une expérience particulière et puisqu'elle est la seule sourde dans un environnement non sourd.
Puisqu'elle est dans un établissement scolaire classique.
Exactement, voilà. Donc elle vient d'être conduite par le garçon dont elle est amoureuse et elle s'échappe à l'accueil au moment où elle est au coin de la rue. On sent qu'elle s'est échappée, on comprend qu'on est dans une grande ville en construction, comme elle-même est en construction d'ailleurs, dans un terrain vague. Et c'est ce soliloque intérieur ou extérieur, on n'en sait rien, mais où elle va sortir tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, où elle raconte à la fois son histoire, à la fois elle fait part de ses émotions, et à la fois elle est aussi dans l'imaginaire. Donc c'est ce tissage que j'ai trouvé, en fait, qui est à l'image de nos pensées intérieures quand on est seul et qu'on rêvasse, ou qu'on est en colère, ou qu'on est amoureux. C'est vraiment ce monologue intérieur qui se livre. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on la découvre.
D'accord, et à cet endroit-là, alors, en elle, dans ses émotions, dans ce qu'elle traverse.
Exactement, exactement.
Et donc tu disais qu'il y avait une colère, un cri dans ce texte, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, alors quand je dis un cri, c'est justement parce que ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il n'a pas de résolution, on n'essaye pas de dire le bien, le mal, c'est vraiment le ressenti de cette adolescente. Et quand je dis un cri, c'est qu'il y a quelque chose de brut dans la langue elle-même, parce qu'il y a aussi ce travail sur la langue de quelqu'un qui entend à travers un appareil, donc qui peut mal entendre ou qui a des répétitions, qui a appris elle-même à parler avec je vais chercher mes mots, un orthophoniste, voilà, donc qui a un rapport particulier à la langue, une langue qui bégaye et qui est passionnante. Et qui aussi, parce qu'une des difficultés parfois pour les sourds, c'est entre évidemment le flux de pensée et la pensée intérieure et les émotions qui sont évidemment tout à fait comme tout le monde, et puis le passage à l'oral. Donc, mais qui est aussi une métaphore de nos passages nous-mêmes à l'oral. Parfois, on arrive mal à exprimer ce qu'on ressent, notamment peut-être à l'adolescence. Donc, quand je parle de cri, je trouve que c'est cette chose assez brute et livrée proche en fait du réel et de ce qu'on peut vivre dans ces moments-là, d'émotions fortes et pas intelligent ou résolu ou didactique. Voilà, c'est pour ça que je parle de cri. Mais par contre, c'est très poétique. C'est-à-dire que c'est pas on n'est pas dans du réalisme ou on est dans une ouverture vers l'imaginaire, vers les envies de vivre, vers les rêves en fait, vers les rêves qu'elle a. Voilà.
Et ça s'entend un petit peu dans l'extrait qu'on a écouté au début du teaser, cette parole assez saccadée. Est-ce que c'est ça pendant toute la pièce ou ça évolue ?
Non, ça évolue parce que en fait tout l'enjeu qui était complexe, c'était d'arriver à faire sentir comment on a des flux de pensée internes et la différence avec le passage à l'oral. Donc c'était à la fois de faire sentir ce que peut être la langue de quelqu'un qui oralise en étant sourd, avec ce que ça peut avoir de difficulté, et en même temps que le flux de pensée lui-même n'est absolument pas heurté ni répétitif, il est tout à fait normal. Donc c'était le passage, comme on est dans un soliloque, dans cette forme théâtrale un peu particulière, de faire entendre à l'oral une pensée intérieure. On a des passages, à différents types d'oralité, quoi. Et un moment très important du spectacle aussi, c'est qu'on a une amie sourde qui a enregistré sa voix sur un bout du texte. Donc, on entend vraiment aussi ce que ça peut être d'étrange pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, la voix de quelqu'un qui est sourd, alors même que la pensée est exactement la même. Il n'y a pas de handicap du tout, en fait. Ça, c'est une fausse catégorie, bien sûr.
Bien sûr. Et on va revenir sur toute la mise en scène avec la création sonore aussi. Ce sera l'occasion d'en parler un petit peu plus dans le détail. Avant cela, on vient beaucoup de parler de l'aspect de cette Vera, de cette jeune femme, donc cet aspect de la surdité, mais c'est aussi une adolescente. Est-ce qu'on voit, comment ça s'entremêle et comment la surdité, la différence par cette surdité ne prend pas le dessus sur ce qu'est être une adolescente en général, en fait? En quoi ça peut parler à tout le monde?
Parce que, il y a deux aspects. Moi, je trouvais que ce qui m'intéressait dans la question aussi de la surdité, c'est à quel point ça peut être la métaphore, hein, ce que je dis depuis tout à l'heure de ces réductions que la société ou les autres, par leur regard, nous imposent, alors même que nous, on se sent libre, infini, changeant. Donc, il y a cet aspect métaphorique. Et puis, il y a aussi qu'elle-même ne parle pas que de ça dans ce monologue, et qu'on a aussi quelqu'un qui est en construction et qui parle plus largement du rapport au regard des autres, de ce qu'elle, elle veut devenir, pour moi, c'est la pièce est une mue, c'est-à-dire on rencontre une enfant et puis on finit avec une jeune femme qui a pris la décision en fait de ne plus être passive, de ne plus subir ce qu'on lui impose, mais d'être active de ce qu'elle veut être en fait. On a vraiment dans l'heure du spectacle cette mutation et qui pour moi est la mutation adolescente. Ce moment où on passe de l'enfance à l'âge adulte, en fait. Elle passe devant nous de l'enfance à l'âge adulte.
D'accord. Et alors, justement, cela m'amène à la question de l'adaptation de ce texte et de toute cette mutation à la scène. Comment c'est une création donc qui est multiple, puisqu'il va y avoir cette mise en scène, ce jeu d'acteur, d'actrice, mais il y a aussi une création sonore, il y a de la vidéo. Comment tout cela s'articule sur la scène?
Alors, dans la version qui va se jouer au TDB, il n'y aura pas la vidéo, qui était en fait il y a deux versions du spectacle. La version qui va se jouer au TDB, elle est jouée par deux comédiennes, Vera est dédoublée, une comédienne en langue des signes et une comédienne en français. On a vraiment travaillé non pas à une interprétation qui serait secondaire, une traduction par la langue des signes, mais à un jeu de double en miroir des deux comédiennes où les langues, il n'y a pas de langue qui prime sur l'autre. Et donc, pour des questions aussi d'accessibilité et de visibilité, dans cette version-là, il n'y a pas de vidéo. Voilà, je le précise juste, qui est un travail que j'avais fait à la création, qui s'est fait pendant le confinement. Donc, on n'avait pas tout de suite pu faire cette version bilingue. Donc, comment ça se traduit? Il y a d'abord cette dualité de Vera, qui peut correspondre à la dualité qu'on a tous en nous, de nos aspirations intérieures et nous-mêmes nous regardant en fait.
Et donc, elles disent pas les mêmes choses. Enfin, si, puisque c'est la langue des signes, elles traduisent. Mais est-ce que parfois, il y a une question-réponse entre elles ou du coup, c'est...
Oui, ça peut se... Tout à fait. C'est vraiment... On a presque travaillé comme chorégraphie, quoi. Ça travaille en miroir. Elles se traduisent l'une l'autre. En fait, il n'y a pas de langue qui est première. Parfois, c'est l'une qui commence et puis parfois, c'est l'autre. Ce qui était important pour moi, c'est que ce ne soit pas la traduction pour un public sourd, mais qu'en fait, il y a deux spectacles qu'on peut vivre différemment selon qu'on soit sourd ou pas. Et puis, c'est une langue qui est magnifique et puis qui se comprend, donc qui, en fait, joue pour tout le monde. En fait, les deux langues jouent pour tous les publics.
D'accord.
Et effectivement, sur la mise en scène, alors, il y avait le choix de la scénographie, qui était de prendre un peu au pied de la lettre l'idée du terrain vague, puisqu'elle dit qu'elle s'est réfugiée dans un terrain vague. Et donc, on a travaillé sur un échafaudage. Comme elle-même est en construction, j'ai pris au pied de la lettre cet échafaudage, l'avantage étant qu'il a plusieurs niveaux. Elle peut circuler dedans, les deux comédiennes peuvent jouer dans ces différents niveaux. Et selon qu'on l'éclaire, il y a quelque chose de très brut et quelque chose, au contraire, de très visuel, avec des lignes très, très graphiques. Donc ça m'intéressait, cette double aspect à la fois pauvre et brut et parfois au contraire très très architectural de l'échafaudage. Et puis ça, très tôt, j'ai eu envie de travailler sur le son à double titre. D'abord pour qu'on fasse vivre vraiment aux spectateurs ce que c'est que l'expérience d'un son appareillé, parce que c'est très particulier d'être appareillé. C'est pas du tout comme une oreille, bien sûr.
Donc on entend un son tel que quelqu'un qui serait appareillé.
Exactement. On a travaillé à la sonorisation de la voix de la comédienne parlante. Et donc, on a, le créateur sonore a vraiment travaillé à partir des expériences de sourds, de sourdes qu'on a rencontrées, qu'on a écoutées, de faits scientifiques. Enfin, voilà, comment on entend, comment ça sature, comment ça se brouille. Parce qu'évidemment, un appareil ne fait pas forcément le tri comme nous on fait. On a appris de faire depuis la naissance entre les différents volume entre les différentes et donc c'est très fatigant, c'est pas anodin, un appareil. C'est difficile, c'est voilà. Et donc ça me semblait intéressant, plutôt que d'embarquer tout le monde dans cette expérience là très physique et sensorielle. Et puis le deuxième aspect, c'était de mettre au plateau cette autre de Vera, qui est qui peut figurer ce garçon qu'il a éconduit, mais qui est un musicien, donc qui est aussi la musique, c'est-à-dire peut-être cette chose auquel elle a accès d'une façon particulière, parce que les sourds, évidemment, n'entendent pas la musique comme nous, mais par contre, ils en ont une expérience physique. Donc, il y a ce musicien et qui tisse tout au long de la pièce sa musique avec le texte. Voilà.
Et qui ne parle pas. Où il a des interventions tout de même.
Alors c'est la surprise.
D'accord, on n'en dit pas plus.
Peut-être, mais en fait, il est là en tant que musicien. C'est lui qui a composé toute la bande son. Et ça me semblait important aussi parce que le texte a quelque chose de très fragmentaire. Et donc pour exprimer aussi ce flux intérieur, la musique est un atout important. Enfin voilà, c'est vraiment construit comme un monologue musical, quoi. Sur la musique, enfin, ça s'est tissé ensemble.
D'accord. Je reviens sur l'expérience, la création sonore du son appareillé. C'était la première fois, toi, que tu l'entendais quand vous avez fait ces recherches. Tu découvrais tout cela aussi ?
Oui, oui, complètement. On s'est vraiment plongé avec ce texte-là. Alors, dans l'équipe, on a beaucoup rencontré aussi de sourdes et de sourds. On a travaillé avec, dans la mesure du possible, parce que ça a été une création qui est faite pendant le confinement, donc qui a été difficile à organiser, mais oui, complètement découvert. Alors, je savais quand même, parce qu'on sait un peu, pour avoir des amis sourdes, que l'appareil, c'est pas toujours facile, mais de s'y plonger vraiment concrètement, c'était évidemment une découverte, et d'essayer de le partager avec le créateur sonore José Marveille, ça a été vraiment passionnant de voir comment on travaille à ça. Voilà.
Et justement, ça m'amène à cette recherche, et puis ensuite, comment aussi tu diffuses ce spectacle. Tu t'es rapproché de structures qui travaillent aussi avec des personnes atteintes de surdité. Comment tu le vois, toi, la diffusion de ce spectacle, au-delà d'un d'un spectacle, on va dire, purement culturel, mais avec toute l'approche aussi de sensibilisation, de discussion que tu peux mener autour. Par exemple, au TDB, il va y avoir 2 représentations jeunes publics. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout cet aspect-là ?
Alors évidemment, ça fait complètement partie, ça n'aurait pas de sens de faire ce spectacle sans qu'il y ait cet aspect-là. Ça n'aurait aucun sens, ce serait presque une faute, quoi. Moi, j'ai comme exemple, on a recréé et joué à la scène nationale de Toulon la saison dernière. Il y a eu des salles mélangées à chaque fois parce qu'ils font un gros travail aussi de public. Hein. Et c'était ça, quoi. C'était ça y est, on était dans ce que pouvait créer ce spectacle. Il y a toujours un échange après le spectacle qui est dans les 2 langues, bien sûr. Ça, c'est une volonté que j'ai toujours après mes spectacles, justement parce que je trouve que le lieu du théâtre et de l'art, pour moi, doit rester poétique, doit rester de l'ordre de l'émotion, de la sensation, de l'esthétique. Et puis après, on parle. Donc, c'est d'autant plus important de mettre des mots, de pouvoir poser des questions et d'être plus documentaire ensuite. Donc, dans mes spectacles, il y a toujours un échange après avec le public pour justement soulever toutes les questions qu'on a posées pendant le spectacle. Donc ça y sera à chaque fois et ça a été à chaque fois. Ce qui était passionnant, c'est d'avoir des questions dans les 2 sens, évidemment. Donc l'idéal de la diffusion, pour moi, c'est de mélanger les publics qui se mélangent peu. En fait, ce serait ça en fait qu'il faudrait viser, c'est qu'on se rend compte que c'est pas si compliqué d'être ensemble, c'est pas si compliqué à mettre en place ce que j'ai trouvé, en fait, par exemple, ce qui s'est passé à la scène nationale et qui va, je pense, se passer au TDB, c'est que du fait que les publics se mélangent, les jeunes publics se mélangent et qu'on puisse parler dans les 2 langues, ça montre à quel point on est hors du handicap, on est au contraire dans quelque chose qui est de la différence, et la différence, c'est pas quelque chose en moins, au contraire. Et quand en plus, je trouve que l'idéal, c'est quand le public se posait des questions entre eux, en fait, du coup, chacun sur ses langues et ses vécus, quoi. Donc voilà, il y aura aussi des ateliers. Ça fait partie, comme je l'ai dit en début de notre entretien. Pour moi, ça fait partie intégrante de mon travail en tant que je fais du théâtre public, c'est-à-dire d'aller vers les publics et d'être toujours en train de partager cet art auquel moi je crois profondément comme étant un lieu de rencontre, justement. Là où le monde ne le propose pas toujours, c'est des espaces où on le propose.
C'est une vision de l'art et du théâtre qui dépasse, du coup, simplement la représentation. J'ai l'impression que tu as pour toi, le théâtre est aussi un lieu qui crée un espace, du coup, d'échange, de discussion qui pourrait, comme tu dis, ne pas y avoir ailleurs.
Oui, c'est aussi ce que je vis, parce qu'on est un peu aussi dans les espaces que la société délaisse un peu. Je travaille dans les centres sociaux, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans des collèges, dans des lycées professionnels, et à chaque fois, les expériences sont très différentes, mais à chaque fois, je vérifie à quel point le théâtre passe, quel que soit le rapport à la langue, quel que soit le rapport au corps, quand on fait des ateliers, quelque chose se passe. Les gens qui étaient plus réservés ou qui avaient du mal à prendre la parole, tout à coup, par le biais de ce moment ensemble, y arrive, et puis il y a des choses qui s'expriment, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se partagent. Ça change le visage d'un groupe, ça éclaire des visages. Enfin, je trouve que, c'est ce qui est peut-être plus difficile parfois dans le rapport des publics à la salle, dans une salle. Je trouve qu'il se vérifie toujours dans les ateliers et quand on va vers les publics, à quel point en fait c'est un lieu qui est un lieu universel, quoi. Qui libère des choses et qui crée des rapports humains, même si c'est des moments, c'est très humble ce que je dis, parce que j'y crois pas du tout, peut-être, et encore moins aujourd'hui où ça devient difficile, mais à petite échelle, à la fois, c'est des mini-utopies, quoi, des mini-moments suspendus, et où on s'écoute aussi, ouais.
Merci Marie Vauzelle. Donc je le rappelle, tu es metteuse en scène, comédienne, autrice, du coup, comme tu nous disais.
Ouais.
Et on retrouve donc ce spectacle Maelstrom sur la scène du Théâtre du Briançonnais le vendredi 25 avril à 20h dans la grande salle. Le 24 avril, ce sera donc les représentations jeune public dont on parlait dernièrement. Merci à toi et bonne journée à toutes et tous.
Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Merci.